Bonjour à chacune et à chacun. Toujours un plaisir de venir à l'église de Saint-Maur et avec Priscilla et la petite Eliana. Et puis Eliana aussi retrouve ses copines, elle est contente. Alors, un texte, un passage assez connu et qui a fait couler beaucoup d'encre dans le monde chrétien, dans l'histoire chrétienne. On connaît Martin Luther, vous connaissez Martin Luther, qui est quand même un des fondateurs de ce qu'on va appeler le protestantisme, qu'on va appeler la réforme. Il a été émerveillé par la façon dont Dieu sauvait par grâce. Quoi ? On a le droit d'accéder au ciel alors qu'on n'est pas parfait ? Il a été heureux, lui qui se frappait, lui qui était un moine catholique, lui qui se frappait tellement il voyait que son péché était grand, et il essayait de tout faire pour pouvoir s'en sortir, et un jour il relit la lettre aux Romains, et il dit mais en fait c'est gratuit le salut, c'est gratuit, Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà tout payé et notre ami Martin Luther s'est réjoui de savoir que juste en confessant tes péchés, en recevant Jésus, tu deviens libéré, heureux, complètement heureux et propre devant Dieu et tu accèdes au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il a lancé la réforme, qu'il a écrit ses 95 thèses en disant que les indulgences sont pas nécessaires, le salut, tout, Jésus a tout payé. Et alors je vous parle de notre ami Martin Luther parce que en fait, dans cet élan de proclamer la foi gratuite, quand notre ami Martin Luther relisait l'épître de Jacques, il était gêné. Au point où il disait, est-ce qu'on peut pas la mettre de côté un peu cette épître? Parce qu'il avait l'impression que ce qu'on vient de lire tout à l'heure contredisait un petit peu cette foi gratuite. Et on a la proclamation de l'œuvre ici qui semble devoir être important pour la justification de l'homme. Et alors, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble et en regardant tout simplement le texte, en prenant le temps et en voyant pourquoi finalement ça ne se contredit pas, ça se complète très bien et comment ça peut être un très grand encouragement pour nous aujourd'hui. Alors on va commencer par voir déjà le texte en particulier, donc voir que notre ami Jacques commence par une très très forte affirmation et il va nous donner une illustration pour pouvoir justement illustrer son propos. Il va ensuite mettre en opposition foi et œuvre, vraie foi et fausse foi. Et ensuite, il donnera... pour donner des exemples concrets de ce qu'il veut dire, il va donner des deux exemples assez connus des chrétiens de l'époque, Abraham, le père des croyants, et Rahab, qui fait partie des héros de la foi. Il va montrer comment les œuvres ont joué un rôle important dans leur vie, et il conclura par une affirmation. Donc on va commencer par regarder ça ensemble, et ensuite on regardera... pourquoi ce n'est pas une contradiction, mais un bon complément que le texte de Jacques par rapport à tous les propos sur la foi qui sauve et sans les œuvres. Et ensuite, on verra que c'est finalement la façon dont on peut tester la foi de quelqu'un, la véritable foi. Et on terminera en voyant que pour nous, chrétiens, croyants qui avons la foi, c'est un bel encouragement pour mieux obéir. Alors, vous avez vu normalement la semaine dernière notre ami Jacques qui a parlé du favoritisme, qui a parlé de faire attention à aimer un peu plus certaines personnes que d'autres. Donc il a même parlé de cette loi royale de aimer son prochain comme soi-même. Et donc pour Jacques, on sent que la mise en pratique de la loi et des commandements de Dieu sont très très importants. Il va utiliser des termes assez intéressants, il va dire si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets pas en pratique, c'est comme si tu es un homme qui regarde un miroir et puis après tu oublies à quoi tu ressembles derrière. Vraiment tu te laisses inspirer, tu te laisses éclairer, finalement après tu en oublies complètement le sens constructeur. Et là, il va justement rentrer un peu plus dans le détail pour faire face à certains abus qu'on pourrait voir dans la marche des chrétiens en disant Mais c'est la foi qui compte, c'est la foi qui compte, c'est croire qui compte. Donc les actions finalement n'est-ce pas secondaire. Et il va essayer de confronter cela avec cette affirmation dès l'entrée qui va conduire finalement notre texte. Mes frères et sœurs, au verset 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et là, il va montrer un exemple, il va donner une illustration, il va dire, donc voilà, si une frère et une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, donc vraiment des gens en situation extrême, ils ont très très froid, je pense qu'on peut le voir, on peut bien s'illustrer, nous, dans notre tête, on a vu des gens SDF, là, on a vu, pour ceux qui travaillent parfois avec les migrants, on avait les migrants qui étaient sous la pluie, avec des moments démunis, et donc, imaginons une situation extrême comme ça, où des gens ont besoin d'aide, ont besoin de soutien, ont besoin d'être protégés, d'être nourris, de leur donner des vêtements, et que l'un de vous passe... Et on voit ces personnes en difficulté et on leur dit « Partez en paix, mettez-vous au chaud !» Mais il peut pas, le gars, il est en besoin. « Rassasiez-vous !» Mais il a rien à manger. Et que tu ne lui donnes rien. Donc tu lui dis de bonnes paroles, mais en fait, il n'a pas ce que tu lui dis. Et pourtant, toi, tu pourrais lui donner. À quoi sert cette phrase que tu dis, à quoi sert cette attitude que tu as pour cette personne, à part juste qu'il l'entende? Eh bien, il se passe rien derrière. Cette personne reste autant dans la même situation démunie, extrême, qu'avant ton passage. En fait, tu n'as servi à rien. C'est un peu ce qu'il dit. Ton passage avec tes belles phrases n'ont servi à rien. Et là, il dit, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, la foi est morte. Très interpellant. Alors, il va mettre en contraste deux situations. Il va dire, il y en a certains qui vont dire, bon, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Il va dire, attention, la foi, c'est pas juste croire. Et il va dire ici, il va donner un exemple très concret. Et c'est assez violent quand même comment il va donner cet exemple. Il va essayer de définir la vraie foi. Il dit, tu as la foi parce que tu dis que tu crois en Dieu. Et souvent, je sais pas, dans nos contacts, hein, moi très souvent, j'ai des gens qui vont me dire, je suis croyant et pas pratiquant. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Je suis croyant et pas pratiquant. Donc tu crois qu'il y a un Dieu? Oui, je crois vraiment en Dieu. Vraiment, je pense que c'est important, Dieu. Vraiment, c'est très bien. Et vous imaginez, Jacques, face à ces personnes-là, ben il va leur dire, mais tu sais que les démons aussi, hein, ils croient qu'il y a un Dieu. Bam! Donc, tu as la même foi que les démons. C'est ce qu'il est en train de dire. S'il y a rien derrière ta foi, sache que les démons aussi, ils croient qu'il y a un Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus que juste dire que je crois qu'il y a un Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi le croient. Par contre, eux, ils tremblent. Parce qu'ils savent qu'un jour, Dieu va les punir. Et il veut vraiment faire comprendre que parfois, on a une mauvaise conception de ce que veut dire la foi et de ce que sont ses engagements. Et il va donner un exemple assez interpellant. Alors, il va dire aux gens comme ça, donc il va, vous voyez, il est assez dur parce qu'il veut vraiment que les gens puissent comprendre que attention aux abus de se dire, moi j'ai la foi, donc je suis protégé, je peux faire ce que je veux. Il va dire, verset 20, il va utiliser le terme assez fort de dire, homme sans intelligence, homme qui ne réfléchit pas, homme qui ne met pas les choses en perspective, homme qui ne pose pas, les circonstances, est-ce que je peux te montrer que la foi sans les œuvres est morte? Et là, il va prendre deux exemples. L'exemple du père des croyants. Alors, pour tous les juifs, donc on sait que on pense que les premières cibles de l'épître de Jacques, c'est les juifs. Il dit les 12 tribus dispersées, la diaspora juive. mais aussi c'est aussi tous les chrétiens, tous les croyants, tous les frères. Et donc Abraham, c'est quand même un personnage très très important. Très très important dans la marche du peuple juif, dans l'histoire du peuple juif, il est le premier grand patriarche. Et on sait que c'est lui qui a reçu les bénédictions. Il a reçu les bénédictions. Donc juste lire quelques-unes d'entre elles en Genèse. Et donc c'est de lui en fait que tout est issu. Il est le premier, c'est de lui qu'est issu Isaac et ensuite Jacob et les 12 tribus. C'est lui qui a reçu la bénédiction et les annonces. Et donc, verset chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Première grande bénédiction. Ensuite, il refait une grande bénédiction en Genèse chapitre 15, et c'est là le texte que Jacques va mentionner. On va lire le verset 4. « L'Éternel adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Regarde, alors après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui sera compté comme justice. » Et il dit, Abraham est le père des croyants. Et donc on voit un homme, et Paul lui-même va prendre l'exemple d'Abraham en Galates, chapitre 3, pour montrer que la foi est l'essentiel de la marche chrétienne. Verset 6 de Galates 3, « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. » Donc la foi d'Abraham est un exemple immense pour tous les croyants. Mais Jacques, il va leur dire, mais comment on a vu sa foi? Comment on a validé la foi d'Abraham? Qu'est-ce qui a fait que Abraham a été reconnu comme étant le père des croyants? Voilà ce qu'il va nous dire ici, verset 21. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Alors j'imagine que nous connaissons pour la majorité d'entre nous cette histoire, mais suite à la promesse que Abraham a reçue en Genèse 15 que j'ai lu tout à l'heure, tu auras une grande descendance. Dieu, quelques chapitres après, une fois que Abraham aura Isaac, qui a été identifié comme le fils de la promesse, une fois que Abraham sait que ce seul fils qu'il a, il était très âgé déjà Abraham, hein, il savait que c'était son seul fils enfant de Sarah et de lui qu'il aurait, eh bien, Dieu met à l'épreuve Abraham. Et il lui dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Épreuve de la foi d'Abraham. Quoi ? Dieu m'a fait des promesses comme quoi Isaac serait porteur de toute une descendance. Et là, Dieu me dit, offre-le-moi en sacrifice, comme c'était la pratique de ce temps-là. Dieu n'aimait pas ces pratiques-là, mais là, c'était un test de la foi. Et Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Il est allé jusqu'au bout et il était même allé prêt à le tuer. Et là, ce que Dieu fait, une fois qu'il voit ça, donc pour ceux qui connaissent l'histoire, vous vous rappelez, donc un ange de l'Éternel arrête Abraham et lui dit, tiens, regarde, à côté, il y a un bouc, c'est ça que tu vas offrir comme sacrifice pour l'Éternel, et ce sera pas ton fils. Et ensuite, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel, il dit, je te le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Et alors, qu'est-ce que dit Jacques ici? Il dit, Genèse 15, promesse de l'Éternel, Abraham eut confiance en la promesse de l'Éternel qui lui dit, tu auras une bénédiction, tu auras une descendance nombreuse. Mais quand est-ce qu'on a vu que Abraham a vraiment eu confiance en Dieu ? C'est le jour où, quand Dieu lui a dit « Donne-moi ton fils », Abraham l'a fait, et l'Épître aux Hébreux nous racontera, parce qu'il savait que Dieu pouvait ressusciter son fils. Dieu m'a donné une promesse. J'aurai une descendance nombreuse à travers Isaac. Il me dit « Donne-moi ton fils », il a un plan. Il a un plan. Je pourrais dire « Ah non, mais attends, pourquoi est-ce que tu m'as dit ça ? Et là, ça s'oppose complètement. » Non, si Dieu m'a dit « J'aurai une descendance », j'y crois. Dans ce qu'il me demande, il va faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Sûrement, il va le ressusciter. Mais il va me donner cette descendance. Et donc, je vais pouvoir agir. Et mon action va montrer que j'ai une vraie confiance en Dieu. Voilà ce que notre ami Jacques veut démontrer à travers ce texte. Il dit, si tu as la foi, cela se manifeste par des actions. Et la promesse de Dieu et le fait que tu as eu foi en Dieu se rend visible au moment où tu agis. Reprenons le texte, il donne ensuite un deuxième exemple. Il dira cette affirmation, qu'on retrouvera tout à l'heure, il a été appelé ami de Dieu. Donc, ainsi est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, cela lui fut compté comme justice, et il a été appelé ami de Dieu. Voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Donc Rab, qui était dans la liste des grands héros de la foi, qui n'était pas juive, mais quand les Israélites sont arrivés pour conquérir Jéricho, Rahab, elle se disait, ces hommes-là, ils viennent du Dieu vivant, du Dieu puissant, je dois donc me mettre de leur côté. Donc elle a eu foi en Dieu, mais elle a agi en protégeant ces deux hommes, les espions juifs, et elle a mis un foulard rouge sur sa fenêtre parce qu'on lui avait demandé. Et quand la ville a été détruite, il y avait juste la maison de Rahab qui est restée. Et donc il dit, la Rahab, leur prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Et là, il conclura ces exemples qu'on a donnés. De même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Et alors, voilà un petit peu une petite présentation de ce texte. Mais là où c'est interpellant, c'est de se dire, mais alors, comment on réconcilie des textes très très forts comme celui-ci en Éphésiens, vous le connaissez, Éphésiens chapitre 2. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la parole de Dieu. Verset 8. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Comment on va concilier ce que dit notre ami Jacques en disant « Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses œuvres et pas seulement de la foi. » Et des textes comme Romains chapitre 3, où il est dit « Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle est exclue, verset 27, par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » On dirait quand même que ça s'oppose, non ? Et c'est intéressant que notre ami Jacques reprenne l'exemple de Paul, quand Paul dit « on est déclaré juste par la foi » en Galates. Jacques, il dit « ben non, c'est pas juste la foi, c'est aussi les œuvres. » Alors, qu'en est-il ? Comment accéder à la justification ? Et je pense que là est la première définition à donner. Qu'est-ce que être déclaré juste ? Parce qu'il l'utilisera. La notion d'être sauvé, la notion d'être justifié, d'être déclaré juste. Et un théologien m'avait donné ce conseil quand j'étais jeune et que je commençais à faire des prédications. Il me disait, n'oublie pas de d'éclairer les textes compliqués de la parole à la lumière des textes simples et très clairs. Quand tu vois un texte compliqué et que tu dis, j'ai du mal à me comprendre, rappelle-toi des textes simples et très clairs qui entourent ce texte compliqué, qui sont dans la parole de Dieu. Et donc, depuis l'arrivée de Jésus jusqu'à l'Apocalypse, ceux qui sont sauvés, ça veut dire ceux qui vont passer hors du jugement de Dieu, ceux qui vont recevoir le pardon, ceux qui vont recevoir la libération de leurs péchés, ceux qui vont être en Christ lors de son retour et qui vont vivre la vie éternelle en lui, d'après la parole de Dieu, c'est ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Ceux qui ont la foi en Jésus. Les textes sont tellement nombreux, déjà dès le début des évangiles, et jusqu'à la fin, c'est ceux qui ont placé et cru en Jésus. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et des sources d'eau vive jailliront jusque dans l'éternité, dit Jésus. Et foi en moi, croyez en moi. La foi est l'élément principal de la marche chrétienne. C'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous libère. La foi dans l'œuvre de Jésus sur la croix, il a tout porté, c'est suffisant. Je viens dans ma fragilité, je viens avec mes péchés, je viens avec qui je suis et je crois que Jésus a porté mes péchés. Je n'ai rien à porter, rien du tout. Rien du tout. Et quand on dit que ce n'est pas les œuvres qui te rendent juste aux yeux de Dieu, c'est que ça veut dire que ce n'est pas par tes actions que tu vas pouvoir recevoir l'approbation de l'Éternel et l'accès au ciel. Tu ne peux pas réclamer l'approbation de l'Éternel grâce à tes bonnes actions. Et je dirais que c'est Jacques lui-même qui va le prouver. Dans un texte que vous avez eu la semaine dernière, j'imagine, en Jacques chapitre 2, il nous dira, verset 10, regardez, il dira, de fait, la personne qui obéit à toute la loi. Donc le gars, à peu près, on estime qu'il y a 600 commandements dans l'Ancien Testament. Il obéit à 599. Mais qui pêche contre un seul commandement, qu'est-ce qu'il dit ? Et en faute vis-à-vis de l'ensemble. Jacques lui-même dit ça. Il sait, Jacques, que tu ne peux pas arriver juste à travers tes actions, parce qu'il suffit que tu transgresses un seul commandement et tu es coupable. Je prends un exemple et ça se comprend très très bien. Et imaginez, j'ai été attrapé parce que j'ai brûlé un feu rouge et après j'ai cogné une voiture. Donc je passe en jugement et là ils arrivent et ils disent « Alors monsieur, est-ce que vous vous pensez coupable de ce que vous avez fait ?» Alors je leur dis « Ben non messieurs, ben déjà j'ai respecté la limitation de vitesse au début et puis après quand il y a eu un piéton, ben je me suis arrêté. » Et puis ensuite, j'ai respecté tout le reste. Et j'ai dit non, mais c'est pas est-ce que vous avez respecté tout le reste qui nous compte, c'est est-ce que vous avez transgressé la loi. C'est pas parce que tu as respecté tout le reste de la loi, si tu transgresses la loi une fois, tu es transgresseur de la loi. Donc Jacques le dit. Donc nous ne pourrons pas arriver au ciel en disant regarde Seigneur, t'as vu, j'ai fait tout ça, parce que malheureusement, on a d'autres choses qu'on a faites qui ne sont pas bonnes. Mais alors comment être justifié, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ, seul et unique. C'est lui qui dit, Ruben, désormais, je le revais de ma justice. Moi, Jésus, j'ai été juste à 100% et je revais Ruben de ma justice. Pourquoi ? Parce que Ruben a cru que je suis mort pour lui et il a reçu l'œuvre que j'ai faite pour lui. Mais alors, comment comprendre les textes de Jacques si c'est ça le fondement de la foi chrétienne ? Eh bien, je pense que Jacques et Paul seraient d'accord. En fait, Jacques ne définit pas comment nous sommes approuvés de Dieu, mais il dit comment nous prouvons que nous sommes approuvés de Dieu. En fait, la présence des œuvres dans ta foi prouve que tu es vraiment en Jésus. Parce que tu as les œuvres, alors tu as la foi. Et là, Paul va rejoindre Jacques. Plusieurs fois, Paul sait que des gens peuvent faire un grand abus de la parole de Dieu et de cette grâce de Dieu. Certains, si je vous prends Romains, quand il va parler du salut, on va prendre en Romains chapitre 6. Que dirions-nous donc ? Verset 1. Allons-nous donc persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Donc certains ont compris que la grâce se multiplie quand le péché est là. Et donc, bah, péchons ! Péchons encore plus parce que comme ça, la grâce va encore plus arriver. Donc les abus sont là. Paul le sait. Il y a des abus dans la foi. On peut se dire, bah tiens, et c'est là que c'est très important d'être conscient de ça. Parfois, il y a des histoires où on dit, mais je sais que quand il avait 14 ans, il a levé la main à un appel, parce qu'il y a eu un appel et il a levé la main, et il a dit oui. Mais à partir de 15 ans et depuis 10 ans, il vit comme un pécheur notoire. Et on dit, oui, mais je sais qu'à 14 ans, il avait accepté Jésus. Avait-il réellement accepté Jésus si on ne voit pas le fruit de cette foi? On ne voit pas le changement. On ne voit pas l'amour pour les autres. Et pour Jacques et pour tous les apôtres, l'amour est une des marques les plus fortes de la vraie foi en Jésus. Notre ami Jean va être très très clair dessus si on prend 1 Jean chapitre 2. Le verset 9, il dira « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. » Le verset 4 et 5, ils diront « Celui qui prétend l'avoir vu alors qu'il ne connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, mais la vérité n'est pas en lui. » Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Et l'apôtre Paul va aussi être d'accord. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans notre ami Jean le Baptiste, quand il va parler à ceux qui viennent se faire baptiser pour la repentance, il va leur dire, en Luc chapitre 3 par exemple, « Produisez des fruits dignes de votre repentance ». Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, les apôtres? Et Jésus aussi derrière. Quand des hommes et des femmes vont venir, ils vont dire, Jésus, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des malades en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades, pardon, en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Jésus, c'est en ton nom qu'on a fait ça. Il dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce qu'ils sont tous en train de dire? Ils sont en train de dire, si tu as vraiment rencontré Jésus, si vraiment tu as placé ta foi en lui, si vraiment tu as été touché par sa grâce et tu as cru qu'il t'a pardonné tes péchés, alors, naturellement, alors, de façon incontestable, tu porteras du fruit. Tu porteras des œuvres. Tu porteras un fruit de l'obéissance. Et donc, si, et là, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez redoutable parce que je vais vous dire, en tant que pasteur, c'est comme ça que je peux voir si une personne a vraiment la foi ou pas. Oui, il y en a qui vont confesser Jésus. Oui, ils vont dire Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Mais si je ne vois en eux aucune volonté de changer, si je ne vois en eux aucune remise en cause, si je ne vois en eux aucune demande de pardon et aucun fruit de progression dans l'amour et dans la grâce, j'ai le droit, d'après la parole de Dieu, de me poser des questions sur leur foi. Autre verset qui va dans ce sens-là. Jésus dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Porte-t-on des bons fruits sur un mauvais arbre ou a-t-on des mauvais fruits sur un bon arbre? Il dira non. Les amis, ce texte de Jacques vous donne comment identifier si quelqu'un marche avec Jésus réellement ou pas. La confession, oui. La proclamation de Jésus Seigneur et Sauveur, oui. Nous ne sommes pas dans les cœurs pour savoir si vraiment la personne a été régénérée ou née de nouveau, si elle a reçu l'Esprit Saint. mais nous pouvons constater si le fruit de l'esprit est porté. Parce que quand Jésus rentre dans une vie, il se passe réellement quelque chose. Et c'est avec ça que j'aimerais prendre la dernière partie. Mais alors ça peut nous faire peur, en disant « Ah, moi je vois que je ne porte pas toujours le bon fruit. » Le chemin pour accéder au salut, on le reconfirme encore une fois. C'est la repentance et la foi en Jésus. C'est celui qui est proclamé depuis que Jésus est venu. Sinon, il ne serait pas venu, Jésus. Si c'était juste l'accomplissement de la loi, on aurait laissé la loi et puis, bah, allez-y. Jésus est venu pour que il porte nos fautes, nos péchés, et c'est vraiment dans la repentance qu'on reçoit le salut en Jésus, qu'on reçoit le pardon, et que c'est encore des choses que nous devons faire encore aujourd'hui. Mais j'aimerais vous encourager, c'est qu'à partir du moment où vous venez à Jésus, à partir du moment où vous acceptez que Jésus est désormais celui qui doit diriger votre vie, que vous acceptez que Jésus est celui qui est maintenant votre chef, alors vous porterez du fruit. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, parce qu'il met son esprit en vous, parce que il va agir à travers vous. Et il le montre, et je pense que vous le savez, déjà, les témoignages que nous recevons, nous savons que Dieu agit en chacune et en chacun. Mais c'est un encouragement, donc c'était un avertissement quand même de se dire, mais où est-ce que tu en es dans ta marche avec Dieu? Regarde tes œuvres. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton Dieu? Si tu ne les aimes pas, pose-toi des questions sur ta vraie, véritable foi. Mais une fois que vous vous êtes posé, que vous avez dit, je me suis quand même examiné, je sais que j'ai confié ma vie à Jésus, je sais que je veux le servir, je sais que je veux aimer mon prochain, mais j'ai quand même du mal, j'aimerais vous encourager en disant, le Seigneur Jésus vous a quand même mis son Esprit Saint en vous. Je ne sais pas quelles sont les tentations ou les difficultés que vous pouvez avoir. Par exemple, la semaine dernière, c'était sur l'amour du prochain. Ne pas faire de favoritisme, aimer toutes et tous sans distinction. Aujourd'hui, on voit ne pas être indifférent. Si on voit quelqu'un dans le dénuement, allons-y. Eh bien, sachez que puisque Jésus a mis son cœur et son esprit en vous, alors vous pouvez être impulsé de la même manière que Jésus était impulsé. Vous pouvez faire grandir votre amour pour votre prochain à la mesure de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez du mal à pardonner, par exemple, ce qu'on vous a fait, le mal qu'on vous a fait. Est-ce que vous êtes quelqu'un de rancunier? Vous ruminez ce qu'on vous a fait, que ce soit au travail ou dans l'église ou dans la famille? Eh bien, si vous êtes en Jésus, j'aimerais vous encourager et dire, il y a en vous un esprit, l'Esprit Saint, qui peut vous donner la capacité immense de pardonner entièrement. Entièrement. Ça, c'est en vous. C'est la puissance de l'Esprit, la puissance de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ qui veut porter du fruit en vous. Pour certains, c'est peut-être le combat dans le domaine sexuel. Incapacité à résister aux attraits de ce monde. Il y a en vous l'Esprit de Jésus qui a été tenté en tout sans jamais pécher. C'est l'Esprit qui est en vous. Il y a cette capacité en vous par la présence de l'Esprit Saint. Peut-être que certains très vite tombent dans la crainte de l'avenir, s'angoissent très vite en pensant au lendemain, en pensant au travail qui arrive, en pensant à ce qu'on n'a pas ou en pensant à des choses. Et parfois, malheureusement, vous péchez par grand manque de confiance en Dieu. Eh bien, la parole de Dieu dit que vous avez l'Esprit Saint et que cet Esprit peut vous donner la paix face à toutes les circonstances, peut vous rendre serein, et que c'est un fruit normal de votre marche avec Jésus. Et on pourrait continuer dans plein d'autres domaines, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes. Nous pouvons avoir des tentations, nous pouvons être tentés, la parole de Dieu dit dans l'épître de Jean que le monde c'est la convoitise des yeux. Donc parfois on désire avoir les choses, c'est la convoitise de la chair, on est poussé par nos pulsions, par nos passions dans une direction qui ne devrait pas être, ou c'est l'orgueil de la vie. On aspire à être grand, avoir une grande position, etc. Donc peut-être qu'il y a différents domaines comme ça où vous vous sentez tenté, tiraillé dans un combat. Eh bien, l'encouragement que finalement Jacques nous dit, c'est que parce que tu es chrétien, si tu es chrétien, en toi il y a la semence qui va permettre de porter du bon fruit. N'est-ce pas encourageant ça ? En toi, il y a la semence qui va te permettre d'être patient dans les circonstances les plus dures, d'être joyeux là où c'est compliqué. Mais là encore, c'est la foi qui va nous permettre de vivre cela. Comme Paul dira en Galates, comme vous avez reçu l'Esprit, par la foi, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Christ, marchez en lui. Ça veut dire quoi ? J'ai reçu la foi, j'ai reçu l'Esprit gratuitement, par la foi, parce que j'ai cru que c'est Jésus qui peut donner. Eh bien, quand je vais continuer à marcher demain, dans mon travail, avec ma famille, avec mes amis, dans l'Église, je veux encore continuer à marcher par cette foi et cette grâce. Et j'aimerais conclure avec Pierre, qui, après nous avoir rappelé tout ce que nous avons reçu en Dieu, il va dire, voilà tout ce que vous avez reçu en Dieu. En chapitre 2, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. » Donc, la puissance de Dieu, lorsque tu es venu à Jésus et que tu as cru en son œuvre sur la croix et que tu as choisi de marcher avec lui, il est dit qu'il t'a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et je sais que parfois on peut être un chrétien et combattre et être tellement terrassé par le péché, par les tentations, on dit « Ah, je vais pas m'en sortir !» Et là, la parole de Dieu, elle dit « Tu veux vivre pieusement pour Jésus ?» Eh bien, sache que tout est disponible pour toi. Tu veux être quelqu'un d'aimant ? Tu veux être quelqu'un qui se soucie de ton prochain au-delà de ton propre intérêt ? Sache que tout est disponible pour toi. Tu veux être quelqu'un qui fonce à 100% pour Dieu, qui te donne à 100% pour son œuvre et qui ne te retient pas et qui n'a pas peur ? Tout est disponible pour toi. Sa divine puissance a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété quand tu as connu Jésus. Parce que regardez au verset 4, ce que nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et vous êtes devenus participants à la nature divine. Il dit, les amis, prenez conscience, plus nous avons conscience du don de Dieu dans notre vie, de la puissance de l'Esprit Saint dans notre vie, plus nous serons capables de marcher en nouveauté de vie. Plus tu as conscience de la personne qui habite en toi, de sa magnificence et de sa grandeur, plus tu vas pouvoir marcher en nouveauté de vie, comme un chrétien solide, enraciné en Christ, qui aime son prochain de tout son cœur. Mais ce qui est intéressant dans 2 Pierre, et d'autres textes agissent comme ça, c'est que, après avoir dit tout ce que nous avons reçu, il va dire, pour cette même raison, à cause de tout ce que vous avez reçu, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel, l'amour. Nous avons tout reçu, faisons donc tous nos efforts. Nous avons tout de disponible à nos côtés, alors donnons-nous à 100%. Et c'est un peu l'esprit de l'épître de Jacques. Jacques sait que nous sommes fragiles. Quand vous étudierez Jacques chapitre 3, il dira « Nous bronchons tous de bien des manières et bien souvent. » Donc nous bronchons tous, ça veut dire on tombe tous, on est tous fragiles d'une façon ou d'une autre. Donc Jacques le sait, ça, qu'on est fragile. Mais il veut pousser notre intelligence et notre cœur à nous donner à 100% à l'œuvre de Dieu. Parce qu'il sait que dans votre cœur, si vous êtes en Jésus, la semence que vous avez dans la vraie foi, la semence que vous avez dans votre cœur, si vous êtes dans la vraie foi en Jésus, naturellement vous poussera à faire de bonnes œuvres. Donc, allons-y à fond. Parfois, c'est juste nous qui retenons les bonnes œuvres. par notre peur, par manque de connaissances, par des craintes, par encore on regarde trop à notre propre intérêt, etc. Mais tournons-nous entièrement vers Dieu et vers les autres, et vous verrez comment ça se déverse pour sa gloire. Et c'est formidable. C'est formidable parce que on aspire à parfois, on voit des modèles de foi, on dit, oh là là, comment il s'est donné pour les autres, lui, il aime tellement les autres. Mais la semence est la même. L'esprit qui a conduit cet homme, il habite aussi en toi, n'est-ce pas? L'esprit qui a poussé cette personne-là à se sacrifier pour les autres et pour son Dieu avec joie et avec force, n'est-ce pas le même qui agit en toi? Ayons foi en Dieu qui habite en nous. Et comme Jacques le dit, la vraie foi produira des vraies œuvres qui glorifient Dieu. Amen. Je vous invite à prendre un temps de prière et nous rappeler que, premièrement, peut-être certains, comme Jacques veut le prévenir, sentent que oui, ils ne produisent pas le fruit que la foi devrait donner et se posent des questions donc sur leur vraie foi. Eh bien, je vous invite à venir vraiment à Jésus et à vous repentir et à recevoir le salut en Jésus. Et à faire de lui votre Seigneur, à décider de changer de vie et de dire maintenant je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu. Et Dieu vous donne accès au ciel par Jésus-Christ et par son œuvre. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, je vous invite à prendre le temps de nous rappeler que puisque j'ai la foi en Jésus, alors les œuvres peuvent et doivent naturellement suivre. Mais on veut laisser le Saint-Esprit agir dans tous les domaines, et identifions des domaines de fragilité, on a besoin de sa grâce. Et déposons-les au Seigneur en disant, Seigneur, là aussi j'ai besoin que le fruit de cette foi puisse se manifester. Seigneur Jésus, merci parce que c'est ce que tu veux faire dans nos vies. Tu veux que le fruit de la foi se manifeste. Tu sais combien nous pouvons être déstabilisés, parfois tentés, et parfois nous satisfaire dans une médiocrité de marche chrétienne. Et pourtant, tu nous dis, non, mais quand on est chrétien, il y a le fruit qui se produit et il est là, il est naturel. Alors aide-nous vraiment à laisser place à l'œuvre de l'Esprit-Saint pour que le fruit de la foi aille de l'avant. Aide-nous à aimer l'autre de tout notre cœur, sans rien retenir, sans avoir peur de nous donner à 100%. Seigneur Jésus, merci parce que cela est possible, que ta gloire resplendisse. Je compte sur ta grâce pour toucher nos cœurs et faire du bien à ton peuple. En ton nom, Jésus. Amen.